Bonjour et bienvenue, 9h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la riposte d'Israël aux attaques iraniennes du 1er octobre. L'État hébreu a lancé tôt ce matin une série de raids contre des objectifs militaires en Iran, notamment des sites de fabrication de missiles et des batteries de missiles solaires. Ces frappes sont maintenant terminées et le trafic aérien civil a repris. L'Iran a réagi en admettant des dégâts, mais minimes. C'est une journée de vote en Géorgie, République du Caucase, des législatives présentées comme cruciales et même historiques. Face à face, le parti au pouvoir pro-russe et l'opposition qui réclame l'adhésion à l'Union européenne. Réunis en sommet au Samoa, les pays membres du Commonwealth, principalement le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, reconnaissent que le moment est venu de discuter de l'héritage de l'esclavage et des réparations. L'armée israélienne a présenté ce matin dans un communiqué le résultat de l'attaque lancée un peu plus tôt contre l'Iran. L'opération est maintenant terminée. Elle avait été déclenchée en riposte aux 200 missiles lancés le 1er octobre par Téhéran sur Israël. Israël dit avoir lancé ce matin des frappes contre des installations militaires, frappes qui n'ont pas fait de victimes. Les précisions à Jérusalem de Michel Paul.
Les avions sont de retour après avoir accompli leur mission, selon les responsables israéliens. Et il faut le souligner, les frappes n'ont pas visé les installations nucléaires ou pétrolières iraniennes, mais des bases militaires. Des frappes précises et ciblées, selon l'armée israélienne, des sites de fabrication de missiles et également des systèmes de défense aérien iraniens. En tout, 20 sites pour ces frappes qui ont duré 3 heures. Israël suggère d'en rester là, de mettre un terme à ce cycle attaque-riposte avec l'Iran, mais dans le même temps, Israël menace Téhéran et affirme que ce serait une erreur de la part de l'Iran de réagir à l'attaque israélienne. Pas de changement des directives de la défense passive à ce stade. Les citoyens israéliens en plein Shabbat sont appelés à faire preuve de vigilance et rester à l'écoute de tout changement de ces instructions. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Les cibles avaient été localisées par les Israéliens dans les provinces de Téhéran, de Khuzestan et d'Ilam dans l'ouest, province limitrophe de l'Irak. Téhéran a réagi en admettant des dégâts, mais minimes. Le trafic aérien civil a maintenant repris en Iran. Peut-on parler d'une riposte limitée des Israéliens afin d'éviter l'engrenage? Question posée ce matin par Julien Coquel-Rohem, un spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, sa réponse.
Je pense une attaque sur les installations pétrolières ou nucléaire, éventuellement nucléaire iranienne, là, pour l'Iran, c'était casus belli. Là, évidemment, ils auraient répondu. Là, on va voir ce qui va se passer, mais on a l'impression que les deux pays veulent éviter le dérapage vers un conflit total.
Washington dit avoir été informé en amont, mais ne pas avoir participé à ces frappes. On sait que dans les 3 semaines, un peu plus, qui se sont écoulées, les États-Unis ont été à la manœuvre pour inciter à la retenue dans l'ampleur de la riposte israélienne et dans le choix de ses cibles. L'État hébreu semble avoir écouté, peut-être pour la première fois depuis le début de cette guerre, la Maison-Blanche.
C'est vrai qu'on a vu, il y a une semaine, le ministre des Affaires étrangères iranien qui a dit, suite à, vous savez, aux livraisons de systèmes antimissiles américains à Israël, on arrête de discuter sur le nucléaire. Donc, dans la réponse iranienne, effectivement, un élément très important, c'est leur perception de l'action américaine. Donc là, on voit très bien les Américains mettre un point d'honneur à dire qu'ils étaient au courant, mais ils n'ont pas participé à l'action israélienne. Donc je pense que ça va également dans le sens du fait que tout en restant prudent, que le conflit reste limité.
C'était dans la matinale de RFI, Thierry Coville de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et puis parmi les réactions, la Maison-Blanche a qualifié les frappes israéliennes de manœuvres d'autodéfense et a sommé Téhéran de cesser ses attaques contre Israël pour que le cycle de violence puisse prendre fin. Réaction aussi de l'Arabie Saoudite, sans aller jusqu'à se montrer solidaire de l'Iran. Riyad condamne les frappes israéliennes, mettant en garde contre toute extension du conflit dans la région. 3 morts et près de 20 blessés en Ukraine. De sources ukrainiennes, une attaque de missiles russes a tué hier soir 2 adultes et 1 enfant à Dnipro, ville du centre-est de l'Ukraine. D'autres frappes nocturnes ont fait 1 mort et 1 blessé dans la région de Kiev, d'après l'administration militaire régionale. Des élections législatives qualifiées de cruciales et même d'historiques se tiennent aujourd'hui en Géorgie, République du Caucase. Le pays est divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé de dérive autoritaire pro-russe. On assiste en fait à une sorte de référendum pour ou contre l'Europe. Correspondance à Tbilissi de Régis Janté.
Le vote a commencé à 8h, heure locale. Sur les réseaux sociaux, nombre d'activistes, de figures de la société civile, notamment de la capitale, Tbilissi, ont posté la photo de leur carte d'observateur du scrutin pour souligner combien les citoyens du pays seront vigilants pour une élection qui a connu une campagne tendue, pour laquelle aussi nombre d'organisations qui ont observé le déroulement de cette campagne ont dénoncé l'usage massif de ressources administratives par le parti au pouvoir et une très grande inégalité des moyens de faire campagne. L'ONG Transparency International a compté que 53% des dépenses de campagne au niveau national ont été faites par le seul rêve géorgien, le parti au pouvoir de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Tôt ce matin, plusieurs personnalités politiques sont allées voter, comme le premier ministre Irakli Kobaridze, qui a dit espérer que 60% des voix iraient à son parti, ou la présidente Salomé Zourahuijvili, devenue la figure de proue de l'opposition, et qui a dit, elle, qu'elle n'était pas venue pour voter pour quelqu'un, mais pour quoi ? Une Géorgie européenne. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et les bureaux de vote resteront ouverts en Géorgie jusqu'à 20h ce soir, 16h temps universel, avec dans la foulée les premiers sondages sortis des urnes. Le Commonwealth reconnaît que le moment est venu de parler de l'héritage, de l'esclavage. Ses 56 membres, principalement le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, viennent de se réunir en sommet au Samoa. Ils ont convenu que le temps était venu de discuter de l'héritage du commerce triangulaire, commerce qualifié d'odieux. Et pour le Commonwealth, la voie est ouverte à des réparations. Aux États-Unis, plus qu'une huitaine de jours avant la présidentielle du 5 novembre, et le Washington Post choisit de ne pas choisir ni Donald Trump ni Kamala Harris. La rédaction accuse Jeff Bezos, propriétaire du journal, d'avoir fait pression pour empêcher le quotidien de soutenir la candidate démocrate. Correspondance de David Thompson.
Au Washington Post, tout était prêt pour annoncer le soutien à Kamala Harris. Au début du mois, les membres du conseil éditorial du vénérable quotidien américain avaient rédigé un texte pour appeler leurs lecteurs à voter pour la candidate démocrate. Mais voilà, avant publication, le texte a été soumis à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du journal depuis 2013. Et selon le syndicat des journalistes du Post, c'est le milliardaire qui a préféré bloquer le soutien de son journal à la candidate démocrate. C'est son directeur général qui a annoncé la nouvelle vendredi. Nous sommes conscients, écrit William Lewis, que certains lecteurs prendront cette décision comme une fuite devant nos responsabilités. L'annonce a immédiatement déclenché une pluie de commentaires de lecteurs outrés. Selon le site d'information Sémaphore, 2000 abonnements ont été résiliés et un éditorialiste a même démissionné. Le syndicat des journalistes se dit très préoccupé par cette décision prise à 11 jours du vote et dénonce une ingérence dans les décisions du comité éditorial. Quelques jours plus tôt, c'était le Los Angeles Times qui prenait la même décision, là aussi sous la pression de son propriétaire. En revanche, plusieurs autres quotidiens comme le New York Times, le Boston Globe ou le Philadelphia Inquirer sont restés fidèles à leur tradition en soutenant la candidate démocrate. David Thompson, Miami RFI.
Voilà, avant de conclure le journal, partons pour le Burkina Faso où se tient la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. On estime que l'artisanat représente 20% du produit intérieur brut du continent et qu'il emploie 60 millions de personnes, pour la plupart des jeunes. À Ouagadougou, des exposants venus d'une trentaine de pays sont présents, et ce malgré un contexte sécuritaire difficile. Alexis Guilleux.
4000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels. Pour Serge Poda, ministre burkinabé de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, cette 17e édition du SIAO est une invitation pour la jeunesse africaine.
Il s'agit d'un secteur qui a un très fort potentiel donc de création de richesses, d'offres d'emploi, et donc de possibilités et d'offres d'affaires. Il s'agissait à travers ce thème de mettre en exergue à quel point l'artisanat peut être un vecteur de développement et d'autonomisation de la jeunesse africaine.
Invités d'honneur, le Niger et le Mali, les deux autres pays de l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso, des invités installés cette année dans le village de l'AES. Ousmane Koulibaly est le directeur général du Centre de développement de l'artisanat textile du Mali.
Il va avoir beaucoup de produits, comme vous le voyez, il y a les produits textiles, il y a les produits d'artisanat d'art, il y a les produits confectionnés par nos Touaregs, de la région du Nord. et il y a les produits faits par la maroquinerie. Nous avons apporté beaucoup de choses au niveau de ces SIAO parce que le Burkina est un pays frère.
Selon le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, la tenue de cette édition est un grand défi pour Ouagadougou. Le périmètre de sécurité autour du site d'exposition a été élargi et toutes les composantes des forces de sécurité sont mobilisées.
Reportage d'Alexis Guilleux. Voilà, très bonne journée sur RFI. Il est pratiquement 11h10 à Paris, 2 heures de moins en temps universel.